Il est 10h01, je pense donc que nous pouvons commencer cette première table ronde de la matinée sur les animaux de fiction et les créatures improbables. Et donc, pour ce faire, alors je vais commencer sur ma gauche, nous avons Aurélie Wellenstein, qui a écrit « Le roi des fauves » et « Chevaux de foudre ». À côté de moi, Jean-Claude Duniac, je ne sais même pas s'il est besoin de le présenter, bien connu pour ses jeux de mots foireux et ses connaissances encyclopédiques en matière de littérature, et il a mis tout cela à profit dans un petit livre particulièrement réjouissant qui s'appelle « L'instinct du troll ». À côté de moi, Jeanne de Batz, Jeanne A. de Batz, donc, qui s'était fait connaître en premier pour la vieille anglaise et le continent, et puis qui a écrit depuis un certain nombre de romans, d'une part de science-fiction comme Plaguers, et d'autre part, elle s'est lancée plus récemment dans la littérature un peu plus vampirique, avec Métaphysique du vampire et L'héritière. Et à côté d'elle, Alain Grousset, auteur d'une part de nombreux romans sur l'Égypte antique, mais nous n'en parlerons pas ici, parce que ce n'est pas du tout le sujet, et d'autre part d'un certain nombre de romans de science-fiction, dont un qui par contre lui est tout à fait au cœur du sujet, qui s'intitule Les Manches Forêts. Et pour commencer, ma première question à tous les quatre, ce serait tout d'abord... Vu le sujet, animaux de fiction, créatures improbables, est-ce qu'en fait, ce genre d'animaux n'est pas un élément indispensable qui fait partie du plaisir des lecteurs pour le dépayser? Donc, il faut découvrir des créatures qui sont totalement différentes de celles que nous voyons.
Vas-y, dans l'ordre alphabétique.
Ah, l'ordre alphabétique, inverse chronologie. Je pense que les animaux, c'est pour moi en tout cas dans un récit de fantasy, je cherche vraiment qu'il y ait des créatures dans le récit. C'est notamment les dragons, je pense comme beaucoup, c'était ça qui, quand j'étais plus jeune, m'a attirée, je crois, vers la fantasy, ces créatures absolument merveilleuses, et c'est ça que je cherchais sur les couvertures des romans avant toute chose. Et voilà, donc dans tous mes textes, maintenant, s'il n'y a pas un animal, je suis très malheureuse. Donc voilà, c'est...
Moi, j'aime beaucoup les trucs étranges, hein, faut pas vous truc, mais pas tellement les bestioles, en fait, parce que j'ai tendance à considérer que les bestioles étranges, ça ressemble à des machins avec plein de pattes, et puis ça court partout, et si je commence à écrire ça, j'ai des problèmes avec mes enfants. Donc, j'essaie d'en mettre le moins possible. Par contre, je mets des créatures intelligentes improbables, et c'est leur intelligence qui est improbable. Et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument fascinant.
Alors moi, j'ai peu utilisé les animaux, bien que j'ai toujours apprécié, notamment dans Disney, bêtement, l'adorable petite bestiole avec des grands yeux qu'on colle toujours au héros ou à l'héroïne. Mais je ne suis pas très douée avec le kawaii, donc personnellement, je crois que j'en ai créé que deux, des kawaii. Je veux dire. Cela étant, le dragon, comme disait ma voisine, ça a été aussi une des figures mythologiques qui m'a le plus inspirée, et notamment dans l'œuvre de McCaffrey avec les dragons de Perne, où le lien entre l'homme et l'animal m'avait totalement séduite. Alors je sais, j'ai appris depuis, parce que j'ai lu des trucs autres que les livres de McCaffrey, que en fait ce dont elle parlait c'était ses liens avec les chevaux, mais elle y met tant d'humanité dans ses dragons, tant de force et tant d'intelligence que ça m'a jamais marqué, au point que quand j'ai fait mes premiers débuts sur la toile, mon surnom c'était le dragon du soleil. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose avec les dragons qui nous marque.
Tu es donc une créature improbable.
Non, mais ça tu l'ignorais.
Qui crache le feu souvent. Bon,
ah bon,
oui, moi j'écris pas vraiment de fantasy, mais plutôt de la science-fiction. À partir du moment où j'invente un monde, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des bestioles aussi différentes que le monde que j'ai inventé. Alors pour les manches forêts, l'anecdote, c'est que j'ai écrit ça avec Danielle Martinigol, j'ai écrit beaucoup de livres avec elle, parce qu'elle est professeure de français, donc elle me corrige mes fautes. Et en fait, je voulais une planète entièrement recouverte de forêts, mais avec une forêt tellement dense qu'on ne pouvait absolument pas rentrer à l'intérieur, et que si par hasard on coupait un arbre, deux, trois heures après, il était repoussé, donc impeccable. Et très fier de moi, je dis à Danielle, voilà ce que j'ai inventé. Elle me dit, oui, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'on va raconter, nous, si personne ne peut aller sur cette planète? Donc, du coup, ça m'a obligé à inventer une bestiole qui est le manche-forêt, qui sont des chenilles grosses comme des TGV et qui broutent les arbres comme de la salade et qui font des chemins. Et là, les gens habitent derrière les chenilles et bougent en permanence avec. Donc, j'étais très content de moi. Elle était absolument contente. Mais après, elle me dit, des chenilles, oui, c'est bien. Mais au bout du compte, ça fait des papillons. Et alors, si tu fais des chevilles comme des TGV, les papillons, ils vont être comment? Enfin, voilà. On rentre dans comme une logique.
Ouais. Comme des Airbus forestiers français.
Oui, voilà. Donc, j'ai pensé à toi, c'est bien. Donc, voilà, on imagine des choses. Bon, après, effectivement, pour la fantaisie, le dragon et tout, fait partie des morceaux imposés pour faire une bonne recette, enfin des ingrédients, disons. Voilà.
Bon, merci Alain Grousset, vous venez de conclure votre intervention, oui, vous pouvez partir, vous avez tout résumé là en deux minutes, je crois que ça va passer très vite. Bon, alors, Alain Grousset a déjà un peu spoilé la suite de la table ronde, mais peu importe. Vous voyez, leurs livres sont ici. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant tous ces livres, c'est qu'en fait, on pourrait établir quelque part une sorte de gradation de toutes ces créatures à partir de celles qui sont quelque part les plus proches de nous, jusqu'à des créatures qui, comme les chenilles géantes d'Alain Grousset, deviennent là effectivement totalement improbables quelque part, si ce n'est dans le cadre d'une écologie totalement extraterrestre. Et donc on pourrait peut-être commencer par ceux qui sont un petit peu les plus proches de nous, parce que c'est vrai qu'ils sont très intrigants. Alors Aurélie Wellenstein, dans le Roi des Fauves, vous mettez en scène des créatures qui sont directement issues de l'homme, qui sont les berserkers, mais vos berserkers ne sont pas ceux de la mythologie scandinave.
Alors déjà, peut-être que pour expliquer ce que c'est qu'un berserk, ça vient effectivement de la mythologie scandinave. C'est, Régis Boyer explique qu'en fait, c'est des guerriers fauves qui, pris d'une fureur sacrée, s'élançaient au combat et accomplissaient des exploits dignes des dieux. Ils ne ressentaient pas aucune douleur, ils étaient complètement enragés. Le terme de berserk, on pense qu'il signifierait guerrier ours. Et que c'était donc des combattants qui allaient au combat sans armure, mais vêtus simplement d'une fourrure d'ours. Moi, je me suis ça m'a inspiré pour le Roi des Fauves, mais le point de départ, c'est-à-dire que mes personnages en fait sont amenés à se transformer en berserk, en guerrier fauve, mais dans la mythologie, c'est quelque chose d'assez ponctuel. C'est vraiment, voilà, il se transforme en animal et il s'élance au combat. C'est rapide, c'est quelque chose d'immédiat. Dans le guerrier fauve, j'ai voulu ralentir cela. En fait, ils ingèrent un parasite qui va les transformer progressivement en animal. Donc, en fait, ce qui m'a intéressé dans le roman, c'est de raconter cette lente montée de l'animalité dans les hommes. Ce qui va résonner en eux, ce qui va progressivement la bestialité qui va les envahir. Donc là, l'aspect totémique en fait de la créature qui est mise en valeur. Donc au niveau des animaux, je suis restée sur les animaux un peu de la forêt, un peu, comme traditionnellement les berserks, c'était sangliers, ours, loups. Donc là, c'est un peu pareil. Pour chaque personnage qui va se métamorphoser, en fait, il y a un animal qui va l'envahir. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, l'animal, c'est une valeur très positive. C'est tout ce qui représente la vitalité. La sauvagerie, c'est aussi la liberté, c'est la spontanéité, c'est l'innocence. Donc que des choses finalement extrêmement positives qui, dans un récit de dark fantasy, ça faisait pas écho. Donc en fait, le mot-clé aussi du berserk, c'est vraiment la rage, c'est la fureur. Donc là, c'est le côté plus agressivité. Et c'est pour ça que les personnages vont combattre cette invasion qui les ronge. Sinon, si c'était qu'une transformation en bête, en fait, j'aurais trouvé ça positif. Si c'était se transformer en loup ou en cheval ou en ours, finalement, je trouve que c'est exprimer quelque chose finalement de très irradiant, très lumineux, très, très beau et très sauvage. Vraiment la liberté du prédateur. Donc là, c'est plus aussi la folie qui compte, quoi. Dans ce mythe-là, c'est le fait qu'on va perdre complètement le contrôle et qu'on va être livré à des instincts bestiaux pour ravager tout autour de soi.
C'est très intéressant ce que dit Aurélie, et ça m'a fait penser à tout un tas de choses que je vais livrer en vrac, et j'ai pas réfléchi du tout à la question, mais il y a, dans notre façon de percevoir le mythe et l'animalité, il y a une rupture, en fait, qui a été opérée par le judéo-chrétien. Un moment où on a séparé l'esprit de l'animal, où très clairement on décrit l'homme comme un non-animal, finalement. Donc il y a une tentation, je pense, dans le retour, dans la fantaisie, à réunir les deux, dans la fantaisie et dans la science-fiction, parce que je pense à Animal Farm, par exemple, où quand même on fait des hommes avec des bêtes. Cette réunion-là est très intéressante. On montre l'homme comme un être de raison. Tu disais qu'en fait, il y avait les instincts bestiaux après dans la transformation de tes berserks. Je le dis pas mal. J'ai pas lu ton livre, alors...
Il y a beaucoup de R.
Oui. Et tu parles de prédation. Or, en fait, nous sommes le prédateur ultime, celui qui prédate les animaux, finalement. Et lorsque on démontre que c'est eux les sauvages, il faut encore... va falloir moduler, hein. Va falloir rationaliser ça encore. Voilà, c'est ça que ça m'inspire.
Jean-Claude Duniac.
Moi, j'ai pas du tout des berserkers comme ça, parce que, en fait, dans mon instinct du troll, on en croise quatre au mariage. C'est très rare que des berserkers soient invités à un mariage. Puis eux, ils ont des grosses poches de sang collées en travers du cou, etc. Et en fait, ce sont des patchs parce qu'ils essayent d'arrêter la violence. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y en a un qui est même mal dosé, donc il fait de la poésie et ça énerve. Mais Mais moi, quand je vous entends parler, tout ça, vous avez rêvé de dragon. Oui, vous avez rêvé de dragon, tout ça. Mais moi, quand j'étais petit, mais pas du tout, je vivais à la campagne. Mes parents avaient des chiens et je m'occupais de ramasser les crottes des chiens. Et je dirais, s'il fallait en plus se taper un dragon, je dirais, que ça tombait du ciel, ça risquait de vous tomber dessus. Non, c'était vraiment l'idée la plus épouvantable qu'on aurait pu me coller. Moi, jamais j'ai eu envie d'avoir un dragon comme animal familier. Jamais, c'est un truc.
C'est parce que tu avais prévu de construire des avions.
Parce que j'avais prévu.
Et donc, tu n'avais pas besoin d'un dragon pour voler.
Oui, mais enfin, si tu savais ce que lâchent les avions, ça ne te ferait pas plaisir non plus. Bon. Mais bon, c'est vrai que pour moi, ce n'était pas mon idée. Par contre, avoir une intelligence artificielle, là, j'aurais eu l'équivalent d'une tablette Apple avec une intelligence artificielle, qu'est-ce que j'aurais été content. En plus, ça ne fait pas de crotte partout. Enfin, c'est génial. Mais vraiment, enfin, les animaux étranges, pour moi, ce sont tout le temps des choses qui sont... Tout est étrange. Les moindres bestioles qu'on croise dans les jardins, etc., sont des choses véritablement étranges quand on les regarde de près. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir peur ni des araignées, ni des serpents, ni des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas encore trouvé. Mais autour de moi, j'ai des enfants, qui vraiment, ma fille de temps en temps me réveille à 3h du matin en disant, papa, je ne peux pas dormir dans ma chambre. Il y a une araignée. Alors, l'araignée faisait 1 cm², mais c'était elle ou ma fille, quoi. Et donc, il fallait y aller. Et il fallait m'armer de la pantoufle, de la pantoufle bénie par les dieux, et d'aller tel le paladin écrasé, la bande de la machin, qui en plus se laissait pas faire parce qu'elle se planquait dans les trucs du plancher, enfin c'était l'horreur. Et enfin, je rigole, mais pour moi, c'était une terreur, ça. C'était la terreur des gens autour de moi par rapport à n'importe quelle espèce de truc. Et j'ai visité aussi la galerie de l'exposition, enfin, ce qu'on appelle la galerie de l'évolution dans un musée de dinosaures, où on voit les bestioles qu'il y avait avant même les dinosaures, parce qu'il y a eu 4 extensions majeures d'animaux dans l'histoire de la Terre, et ça remonte à 800 millions d'années, même peut-être plus tard. Et on voit des espèces de bestioles qui ne nous ressemblent en rien, elles n'ont même pas d'ADN, et elles ont des formes mais absolument répugnantes, toutes. On les regarde, on se dit, pas envie de ça. Et ça, la Terre elle-même, on invente plein. Alors je ne vois pas pourquoi nous, en plus, on en rajouterait. Moi, je préfère vous faire des licornes kawaii, des trucs avec des papillons et tout ça, et puis des berserkres qui ont des patchs, parce qu'au moins, on peut les inviter au mariage.
Et aussi, vous avez, moi, ça m'a fait hurler de rire, c'est les nains qui sont des fous de travail et qui font éclater tous les plannings de production.
Ben oui, c'est normal. Le nain moyen, quand il rentre chez lui, sa femme lui fait faire la vaisselle. Donc, à la limite, il préfère creuser avec les copains, je veux dire. En plus, il a des quotas, il a le droit de boire un coup. Donc, c'est vrai que c'est des nains, ils creusent. Et alors, comme on dit toujours, c'est dans le deuxième bouquin, vous ne le verrez pas, mais si on commence à creuser partout sans personne derrière qui étaye, ça finit par te retomber sur la gueule. Et c'est véritablement ça, quoi. Et moi, je les adore, mes nains. Ils sont là et ils foutent en l'air les cotacs de production parce qu'ils trouvent un truc en disant « Ah, il y a un filon, allons creuser et tout le monde va creuser. » C'est génial. C'est vraiment un bonheur.
Oui, oui, on sent qu'ils s'éclatent complètement, hein, dans tous les sens du mot, d'ailleurs.
Ce sont des créatures improbables, mais dans l'univers, ce qui est intéressant, c'est de faire un univers dans lequel les créatures les plus improbables deviennent normales. Et la fantasy permet ça. La fantasy permet d'avoir un troll, permet d'avoir des licornes, permet d'avoir des magiciens noirs et dévoyés. Vous savez, les nécromants devant leurs trucs qui bouillonnent, il suffit de les mettre aux ressources humaines, on est tranquille. Et je me rends compte que les créatures les plus étranges et les lieux les plus improbables que j'ai pu fréquenter, ça a été en général dans des salles de réunion. Et donc je me dis, là, il y a véritablement, on touche au cœur du mystère, on touche à l'endroit où la noirceur même du monde se révèle. Donc je me dis, avec ça, je peux inventer à peu près n'importe quoi.
Mais tu dis, la fantaisie permet tout un tas de créatures improbables, mais la SF aussi. Je pense à Pixel, le chaton quantique, qui est trop jeune pour savoir que ça ne se fait pas de traverser les murs. C'est trop merveilleux, ça, par exemple. Hein, ou les animaux. Alors là, je ne me souviens pas exactement, mais dans il y a une histoire d'un loup intelligent dans un roman de science-fiction.
Un loup.
Un loup, c'est quelqu'un qui gagne à la loterie, un truc qui n'est pas vraiment intelligent, mais qui parle. Je ne sais plus si c'est Varley ou...
C'est possible que ce soit Varley.
Et c'était très rigolo aussi, ce truc-là, où les dragons... Alors, c'est dans Podcast, une fille de Mars, elle a une petite fée bizarre qui est massivement fantastique et pas forcément très gentille. Il y a tout un tas de créatures totalement merveilleuses. Tiens.
Faut pas oublier Dune, quand même.
Ah bah oui, bien. Oui, mais c'est moins kawaii, le verre de Dune. Encore que ceux qui n'ont pas eu envie de chevaucher le verre, quand ils sont fans de SF, je n'en connais pas.
Ah, c'était quand même fatigant. Il fallait courir à côté du verre, planter son pic, essayer de se hisser.
Ouvrir les écailles.
Moi, ça m'a jamais fait envie.
Oh, c'est parce que je sais pas.
Encore une fois, je pense au mec qui passait derrière pour ramasser les déchets. Je dirais, alors là, sincèrement, c'est pas la peine.
Oui, c'est ça. Oui.
Non, mais attends, Arrakis, c'est une immense litière pour chat, donc il n'y a aucun problème.
Je suis sûr que Frank Herbert est très flatté en écoutant ses commentaires. Pour en revenir, se rapprocher un petit peu à nouveau du sujet, vous-même, Jeanne de Batz, dans certains de vos livres, vous avez fait des créatures là récemment qui sont déjà plus proches de l'humain. Vous êtes venu aux vampires, aux loups-garous, ce sont des gens qui sont issus de nous.
Oui, mais c'est nous maximisés, potentialisés. Jusque dans nos aspects les plus sombres, ceux qu'on renie comme étant ceux de l'humanité, en fait, et qu'on attribue à la sauvagerie, à la prédation. Le vampire, c'est le prédateur ultime, mais on connaît tous des vampires, en fait.
Les banquiers.
Mais ou alors la super bonne copine dont 80% des remarques sont toxiques. Celle-là, c'est quand même une forme de vampire. Le petit chef de bureau qui passe son temps à terroriser ses subordonnés et qui pompe leur énergie pour mieux dominer, c'est un autre vampire. Et finalement, moi, dans mes vampires à moi, ils sont super cool, finalement. Ils tuent des gens, mais ils font ça voilà, avec tendresse. Et même, ils prennent un super pied pendant ce temps-là. Ce n'est pas le cas du petit chef, hein, qui vous tue lentement, mais sûrement, et qui vous mène au burn-out. Ou la copine toxique qui vous fait penser que tous les matins dans le miroir, vous êtes vraiment trop horrible pour sortir. C'est,
Et qui en souffre
Georges.
Tu avais promis. George. Tu avais promis. Nous avons des témoins. Donc, voilà. Plus près de nous, je vois des enfants qui sont très, très proches de la part animale. De la vie parce qu'ils ne partagent pas totalement avec nous la même façon de voir le monde. C'est faire des créatures fantastiques au fond, c'est presque de la science-fiction parce que on ne fait que pousser le potentiomètre un peu loin ou le décaler légèrement. Lorsque je fais un vampire, un notaire immortel ou une secrétaire sirène qui ne rêve que de noyer les jeunes filles dans les lavabos, malgré tout, elle, 80% de ses préoccupations, ce sont ses ongles. Alors, bon, je trouve ça super humain, moi.
Surtout que des ongles dans l'eau, ça ramollit.
Et voilà.
Alain Grousset, vous aussi, vous n'avez pas résisté quand même dans les manches forêts à faire des créatures qui sont un peu plus proches de nous avec les maroufles.
Oui, là, c'est bon. Le petit peuple qui vit derrière les manches forêts, ce sont les maroufles. Donc il a fallu trouver un nom et avec Daniel, on faisait des échanges de mails incessants pour essayer de trouver un nom à peu près bien. Et puis en désespoir de cause, on ne trouvait absolument rien. Et à un moment, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il m'a dit, je suis en train de poser du papier plein et je suis en train de maroufler. Donc je lui dis, tiens, ma marouf, c'est pas mal. Donc on a rigolé. Puis j'étais voir dans le dictionnaire ancien et marouf, ça veut dire homme frustre. Et là, ça tombait bien, c'était des petits ours. Donc voilà comment on trouve des peuples. Mais bon, ils sont tout à fait gentils et tout ce qu'il faut, quoi. Et pour nous, c'était une aventure, puisqu'il y a plusieurs tomes aux aventures de Kerry Megan. Et ce sont les enfants dans les écoles qui nous ont imposé à garder les mains, un marouf au moins. Alors que nous, c'était pour le premier tome et après. Donc voilà, notre public nous impose des choses, mais on le fait volontiers.
Donc vous avez gardé Poc.
On a gardé Poc, voilà.
Ça fait un peu
wow. Oui, oui, oui.
Oui, mais avec des doigts plus longs. Avec des doigts plus longs.
Plus efféminé.
Je pense quand même, je reviens un peu sur les berserkers. Parce que ce qui m'a frappé dans Le Roi des Fauves, c'est que bon, vous disiez tout à l'heure, l'étymologie, c'est homme-ours dans les mythologies scandinaves. Ce sont effectivement les gens qui sont pris d'une espèce de folie sacrée, guerrière, et qui partent au combat en avant. Mais alors chez vous, les berserkers, quand même, ils se transforment en des tas de choses absolument formidables. Moi, j'ai rêvé en me disant, c'est quand même sympa de pouvoir se transformer en homme mammouth ou en homme tigre à dents de sabre. C'est quand même beaucoup mieux de se transformer en loup ou en ours.
Oui, c'est vrai que... Bon, après, il y a aussi quelqu'un qui se transforme en crabe, donc ça, c'est pas terrible. Mais un gros crabe avec des grosses pinces, ouais. Ouais. Moi, c'était peut-être un enfant à la base. Et oui, bah, encore comme je disais, moi, c'est vraiment la transformation en animal, c'est quelque chose moi qui me plaît. Hein. Donc là, c'est ce qui est finalement polluant dans l'affaire, c'est qu'ils perdent complètement les pédales. Hein. Mais oui, après le tigre à dents de sable, c'est pas très pratique parce que les dents, a priori, les tigres à dents de sable ne tuaient pas avec leurs dents. Elles étaient trop imposantes pour pouvoir égorger leur proie et c'était plutôt compliqué pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a plus.
Ouais. Il n'y en a plus, pas forcément. Les passionnés de cryptozoologie vous diront qu'il en survit peut-être au fin fond de l'Afrique. Oh. Il y a eu tout un livre de Bernard Revelmans là-dessus. Mais bon, c'est, on dévie du sujet.
Moi, mes propres berserkers, donc, une fois posé leur patch anti-violence, ben, ils se transforment en boys band. Donc, c'est aussi une forme de transformation particulièrement atroce et qui fait d'eux des créatures particulièrement dangereuses. C'est clair. Bon, mais heureusement, ils sont dans une espèce de festival de rock dont ça se passe bien. Mais on sent quand même bien qu'il y a une perte d'humanité. Parce que pour arriver jusqu'au boys band, on est obligé de renoncer à des tas de choses.
Ah ben, ça m'amène à ma baleine, ça. Les gens qui se retrouvent dans le corps de quelque chose qui n'est pas un être humain et qui n'ont plus du tout les sens normaux de l'être humain. Et du coup, ça conditionne la façon de raisonner le monde. Outre le fait que, enfin, pour ceux qui ont pas, qui savent pas du tout de quoi parle la vieille anglaise et le continent, c'est une vieille dame acariâtre de 80 ans qui, juste avant de mourir, est transférée dans le corps d'un cachalot mâle. Et elle se barre dans l'Atlantique Nord où elle a des choses à faire, en gros. Pas les courses, mais des choses à faire. Et son premier problème, c'est de se nourrir, puisque elle n'a quand même pas bénéficié des années d'éducation par papa et maman cachalot. Donc elle apprend lentement, rien qu'à diriger son regard, puisque les yeux ne sont pas placés pareil entre les baleines et nous. Et ça commence à changer lentement sa pensée, sa temporalité, sa perception du temps. Ça devient terrible lorsqu'elle rencontre un autre cachalot avec lequel elle ne communique pas parce qu'elle n'a pas appris les codes de communication animaux et on ne sait même pas si ça parle à ce moment-là. Et sa façon de penser le monde se transforme lentement et cesse d'être humaine. Il y a tout un moment sur la fin du roman où on ne sait pas si elle va s'intéresser finalement à l'enjeu principal, celui pour lequel elle est partie. Parce que ça n'est plus une préoccupation de cachalot. Voilà.
Oui, d'un seul coup. Alors, je vais passer la parole à Jean-Claude Dutiac parce que justement, dans les créatures là qui sont totalement éloignées de l'humain, il y a votre contremaître troll.
Oui, ben, il n'est pas si éloigné de l'humain que ça, puisque je l'écris à la première personne, donc j'ai encore la vocation de l'être un tout petit peu, tout au moins pendant que j'écris. Non, les créatures les plus éloignées de l'humain que j'ai pu créer, ça a été des animaux villes, c'est-à-dire des villes de chair, grandes à peu près comme Épinal, pour vous donner une idée, avec la rivière en moins, et constituées d'espèces d'excroissances et de replis serrés les unes contre les autres, qui servent à la fois de rues ou de ruelles, il y a plutôt des ruelles et des venelles. Il y a une espèce de grand beffroi qui se dresse au milieu, qui est une espèce de principe mâle. Il y a plein de dômes avec des petits tétons qui sont des principes femelles. Enfin, c'est un machin qui ressemble à rien. Et c'est un endroit qui réagit à la présence de ceux qui l'habitent. Ceux qui l'habitent, c'est nous. Et donc, on peut communiquer avec en frottant le mur d'une certaine façon, en dansant à sa surface d'une certaine façon, en ayant un certain type de rapport d'animalité et en sachant que tous les matins, les ruelles sont lavées par des ruisseaux de sueur et que ça laisse une petite odeur salée comme la mer.
Ça s'appelle un cunilingus, hein, ce dont il parle. Moi, je reconnais. C'est,
comme me l'a dit Elisabeth Von Arbur quand j'ai écrit ce bouquin, elle m'a dit « Allonge-toi et parle-moi de ta mère ». Et je pense qu'elle avait tout à fait raison. Mais ça, c'est une créature fascinante parce qu'au début, on a tendance à la trouver relativement passive. C'est juste un endroit habitable, mais qui réagit. C'est une réaction. Et en fait, très vite, dans le premier roman et dans le deuxième roman, écrit avec Ayerdal, c'est devenu un être non seulement conscient, sentient, intelligent, mais qui a ses propres plans et qui fait des choses avec les parasites, les symbiotes que nous sommes, les habitants que nous sommes, et qui nous utilisent parce que nous avons des mains et qu'ils n'en ont pas. Et ça m'intéressait d'avoir, je dirais, une forme de créature énorme, parce qu'il y a beaucoup de créatures qui sont improbables simplement parce qu'elles sont très grandes. Tu parlais de ta chenille, c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Et de me dire, il y a quelque chose de gigantesque à notre échelle, à l'échelle duquel on est une amibe, mais qui interagit avec nous parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Et avant même d'écrire ça, j'avais des animaux-temples dans mon premier roman qui était Le jeu des sabliers. Alors les animaux-temples, par contre, c'est bête, c'est élevé à plein espace, mais ça a l'avantage d'avoir un squelette extrêmement bien fichu, ce qui fait que quand on a besoin de construire un temple quelque part, on fait carrément s'écraser la bestiole, enfin on la fait traverser l'atmosphère, elle cuit dans l'atmosphère, et là, il n'y a plus qu'à le dépecer, et pratiquement toute la charpente osseuse est déjà implémentée, donc il n'y a plus qu'à mettre les murs autour et tout va bien. Et le héros, donc, se trouvant devant aller récupérer un truc qui est en plein milieu, Ben, il est dans la situation du petit pois face à l'énorme côte de bœuf dans votre assiette. Je ne sais pas si vous imaginez. Il dégaine le couteau et il passe à travers et il se glisse dans cette espèce de morceau de barbac qui est cuit et qui est tiédasse, qui est encore un peu vivant parce qu'il est brûlé au, au dernier degré. Et il, vraiment, il se ferait un passage là-dedans. Et maintenant que j'y repense, c'est totalement répugnant. Mais qu'est-ce que c'était jubilatoire à écrire. Et je repense à Von Arburg, elle a raison, il faut que je vous parle de ma mère.
Surtout que c'est le jour de la fête des mères.
Bonne fête, maman.
Et alors, une question, et est-ce que l'animal est comestible? Donc, est-ce qu'on peut tailler son chemin en le mangeant?
En le mangeant, non, mais par contre, c'est une idée intéressante. Tiens, je retiens ça. Non, je ne pars pas du principe qu'on, qu'on fonctionne par, par, de cette façon-là. Pourtant, j'ai eu un personnage particulièrement bizarre qui était un humain, mais qui était un des personnages les plus bizarres que j'ai créés dans une nouvelle qui s'appelait Le cœur de la perle, qui disait que quand il rencontrait un extraterrestre, sa première réaction, c'est est-ce que je peux le manger? Et si oui, est-ce qu'on peut se parler? Et je me disais, ce genre de personnage, je comprends très bien. C'est, personnellement, c'est tout à fait proche de ce que je ressens. Les gens que je vois en face de moi, je me dis, tiens, ils ont l'air comestibles. Ça me Soyez prévenus.
Ça me fait penser à le deuxième tome du Grand Vaisseau, oui. Où ça devait être le Puits des Étoiles, c'est ça?
Oui,
le voilà. Il y a une héroïne qui a des rapports intimes avec un extraterrestre. Et donc, elle vit avec ces extraterrestres. Et pour communiquer avec eux, elle leur met son pied dans la bouche, signifiant comme ça qu'elle est comestible. Et effectivement, du coup, il cause entre eux, même s'il la méprise un peu, parce que quand même, elle n'est pas tout à fait comme nous autres.
Il y a tout un rapport où elle dit « si j'étais ta nourriture, je ne serais pas digne d'être la nourriture de ta nourriture ».
Voilà. C'était un passage très, très étrange, ça, dans Reed. Tu parlais d'animaux monstrueux, enfin immenses, au sens d'immenses. Et je viens de penser qu'en fait, j'en avais fait une créature extrêmement étrange et pas du tout humaine. C'est un trou noir pensant que j'ai appelé Cécilia et qui, à la base, avait été créé par les êtres humains pour servir de générateur à une station spatiale totalement déglinguée. Et personne ne sait que, en fait, c'est comme elle a été vraiment ratée, elle s'est mise à avoir une conscience dont on ne sait rien, parce que je n'ai pas réussi à imaginer ce que pouvait penser une anomalie de cette taille. Tout ce que j'ai réussi à imaginer, c'est qu'elle n'avait pas envie de perdre, que c'était quelqu'un que tournait vers la conservation, et notamment la conservation de ces trucs minuscules, néanmoins conscients, qui s'agitent nerveusement autour d'elle. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour maîtriser ses sauts chaotiques, parce qu'elle est vraiment très très mal fichue comme étoile, elle est toujours au bord de la désagrégation. Mais elle ne communique pas, elle se contente de conserver. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Et elle a une espèce d'interface avec les petites fourmis qui vivent là-dessus, mais qui est forcément un être humain fou.
Il y a un auteur qui a écrit un certain nombre de créatures improbables et qui l'a écrit avec énormément de tendresse, c'est Jack Vance. Il y a une collection d'extraterrestres absolument fabuleux chez lui et des choses, littéralement, qui ont leurs propres envies, leurs propres besoins, leurs propres façons de penser. Et il réussit à donner à chaque fois un sentiment d'étrangeté incroyable. Et je me rappelle d'une enquête de Magnus Ridolf où il est dans une espèce de lieu clos, genre station spatiale. Et il y a quelqu'un parmi les administrateurs qui vole la compagnie, qui fait des détournements d'argent. Et il y a plusieurs suspects. Et il y a une espèce d'oiseau, il y a un truc qui est une espèce de limace. Et puis il y a une espèce de créature absolument répugnante qui vit enterrée dans les ordures qu'elle mange. Et qui est l'espèce de gros truc. Et qui se révèle être le coupable parce qu'on découvre que l'argent lui sert à acheter des bactéries pour refaire sa flore intestinale, ce qui donne bon goût aux choses. Et donc, elle passe son temps à recevoir des paquets qu'on lui jette directement dans la bouche et qui sont des nouvelles formes de flore intestinale qui lui permettent de manger comme un gourmet les ordures des autres. Et ça, c'est un personnage que je trouvais absolument délicieux. pas si je puis dire.
Pour revenir aux créatures gigantesques aussi, ça me faisait penser à une très belle nouvelle que je vous conseille, c'est L'homme qui a peint le dragon Griol. C'est vraiment à l'échelle d'un paysage, et c'est une superbe, très courte nouvelle qui a été rééditée chez ActuSF, je crois.
Non, c'est Obélial.
Obélial,
et il voilà. Y a plusieurs romans sur ce dragon-là. Et pas seulement sur le dragon, enfin sur l'homme qui a peint le dragon Griol, mais sur la manière dont le dragon se dessèche et vit peu à peu, y compris lorsqu'on découvre que son sang peut servir de drogue.
Par contre, je ne sais plus le nom de l'auteur, ça ne me revient plus.
C'est Lucius Shepard.
Ouais, Shepard, voilà.
Qui était très récemment. Oui, et qui était aux Imaginales l'année dernière, je crois. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Et je crois qu'il est venu aux Imaginales l'année dernière et il est mort quelques mois plus tard. Mais je précise sans qu'il y ait de rapport de cause à effet. Hein. Quand même, ça n'est pas dangereux de venir aux Imaginales. Puis bien entendu, il y a l'océan. Il y a aussi l'océan de Stanislas Lem dans les créatures totalement improbables.
Oui, j'ai même lu une galaxie pensante à un moment donné qui s'oppose au fait qu'une autre galaxie va lui rentrer dedans et que cette autre galaxie se révèle pensante aussi. Et il y a une nouvelle extraordinaire où il se demande en fait si ça couple ou s'ils essaient de se repousser parce que ça va faire plein de dégâts dans tous les cas. Et c'est une métaphore de la relation humaine qui est magnifique, mais à l'échelle de la galaxie. Il faut quand même arriver à le faire.
Ah, qui était l'auteur? Ça m'évoque quelque chose. Vous vous souvenez qu'il était?
Je viens de me rappeler d'une créature totalement étrange, totalement monstrueuse que j'adore, c'est la grande tortue Atwin, surmontée des quatre éléphants qui portent le disque monde, qui à un moment, au tout début du disque monde, doit se reproduire grâce au huitième sortilège, et on voit arriver le grand mâle Atwin avec les petites tortues célestes derrière. C'est quand même une image extraordinaire, ça je crois que c'est la bestiole étrange de science-fiction qui m'a fait le plus rire et le plus rêver aussi, avec sa carapace toute moussue de comètes, toute grévée de météores. C'est merveilleux.
Je crois que, enfin, on parle de tous ces animaux et tout, mais je pense que l'homme est le meilleur parmi d'entre eux tous, parce que lorsque j'ai fait la bête de guerre, qui est l'utilisation des animaux pendant les guerres, j'ai trouvé quand même des anecdotes assez croustillantes pour utiliser les animaux. Enfin bon, les Russes donnaient à manger sous les chars, enfin aux chiens sous les chars, et puis lorsque les chars allemands sont arrivés, ils leur ont pas donné à manger pendant 3 jours, ils leur ont accroché une bombe magnétique sur le dos et ils les ont lâchés. Donc les chiens ont couru chercher leur nourriture et ont fait exploser les chars. Donc ça, c'était courant. Mais le truc le plus rigolo que j'ai trouvé, c'est les Américains qui ont dit, tiens, les maisons japonaises sont en papier, ce qui serait bien, c'est de leur mettre le feu. Et comment on pourrait mettre leur feu? Avec les chauves-souris, en leur accrochant des petits fumigènes. Et donc, ils ont fait plein d'essais. Et bon, ils étaient prêts à le faire. Et puis, ils ont emmené les chauves-souris en avion. Et puis, il y a une cage qui s'est ouverte. Et ça a été une catastrophe pour l'avion. Et donc, l'avion a fait demi-tour, vraiment, en désespoir. Ils sont arrivés à peu près vivants. Et donc là, l'état-major a dit, bon, allez, on arrête les bêtises. Mais bon, voilà, donc vraiment, l'homme aime bien utiliser les animaux et dans des circonstances absolument abominables.
Je crois que même les Indiens, à un moment, enfin dans l'Inde ancienne, avaient des rhinocéros de guerre.
Il y a eu des éléphants d'Hannibal.
Et les éléphants, oui.
Et les dauphins aussi, dans Un animal doué de raison, on en parle, oui. Ils leur attachent des bombes sur un harnais et ils vont près des sous-marins.
Alors, pour les faire exploser. Et c'est vachement pervers parce qu'au départ, on les entraîne avec des harnais où la bombe est magnétique et doit se détacher et se coller au bateau ennemi. Sauf qu'à la fin, les harnais sont étudiés pour que la bombe ne se détache pas.
Ouais, le dauphin est collé avec.
Ouais. Et comme ça, on se débarrasse des deux dauphins parlants, c'est tout bénef. Ouais.
Peut-être un mot que.
C'est vrai.
C'est quand même particulièrement improbable et gigantesque en même temps.
Oui, mais non. Alors d'abord, je n'avais pas oublié. J'avais occulté. C'était du déni. Pour moi, les multiples, c'est comme les vampires, en fait. Ils existent. Les multiples, c'est les amis que nous sommes, les familles que nous formons, les amours que nous avons. Lorsqu'on crée en couple, on crée en fait un troisième individu qui n'est ni l'homme, ni la femme, ou ni le guéridon, ni Dieu sait ce que vous voulez, avec quoi faire un couple, vous faites ce que vous voulez, les mecs. C'est encore un autre adulte que les deux qui le composent. Le tout est plus grand que le reste. Ne me demande pas des trucs pareils à ce tour-là. D'abord, c'est pas humain.
Ça permet alors de faire un jeu de mots particulièrement répugnant, si tu me permets.
Ah bon, pardon. Alors, si c'est pour une œuvre.
Il y a le chat de Schrödinger comme créature improbable aussi, qui est vachement intéressante de ce côté-là. On peut jouer avec lui. Bon, lui, il est ni vivant ni mort tant qu'on a ouvert la boîte. Je me rappelle un dessin d'une bande dessinée récente où vous avez Schrödinger présentant fièrement sa boîte en disant « Et grâce à cette expérience, on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou mort. » Et de la boîte, on entend « Miaou » et « Dis ta gueule ». Bon, c'est tout à fait ça.
Je pense, Jeanne de Batz, qu'il faudrait peut-être préciser que c'est dans « Plagueurs ». Qu'on trouve effectivement cette évolution de l'humain vers le gestalt.
Oui, mais en fait, j'avais. Si ce que je prends comme base continuait, on arrivait à l'humanité en total gestalt. C'était la continuité logique et biologique de ce que j'avais mis en place. Mais ça m'a fait un peu peur, cette union totale de l'humanité. Alors, j'ai tout cassé à la fin. Voilà. Enfin, les êtres humains se retrouvent tout aussi seuls et que nous sommes tous. Et finalement, comme ils sont plus libres, c'est mieux.
Est-ce que c'est parce que vous aviez vu The Human Centipede, un des films les plus répugnants qui existent?
Ah non, non, non. Celui-là, on m'a épargné, mais...
Alors, revenons quand même à des créatures improbables mais plus sympathiques, comme vos chevaux de foudre, Aurélie Wellenstein.
Alors, je ne sais pas s'ils sont très sympathiques, en fait, c'est les chevaux de foudre.
Ce qu'on vient de dire, ils sont
plus sympathiques. Ah oui, par rapport à l'humain centipède, il est super sympa, le cheval de foudre. C'est donc un cheval, comme on peut l'imaginer. Moi, je me suis inspirée des frisons, parce que j'adore cette race. Et donc, ils ont la... Et ils ont la caractéristique de pouvoir décharger l'électricité quand il y a de l'orage, et quand ils sont au grand galop, ils génèrent de l'électricité et de la foudre. Donc ils sont très intéressants pour les humains qui les capturent pour les mettre dans ça se passe dans une Rome antique parallèle. Donc ils capturent ces animaux pour les mettre dans le cirque Maxime à l'hippodrome et faire des courses, générer des courses avec ces créatures. La piste étant électrifiée, quand les chevaux commencent à galoper dessus, ça génère de plus en plus d'électricité. Donc si les malheureux cavaliers viennent à tomber, ils sont rôtis et massacrés par les chevaux qui les piétinent. Donc ça reprend un peu les codes du cirque Maxime, des courses de chars en fait, qui étaient extrêmement extrêmement dangereuses, où il fallait pas tomber parce qu'effectivement on était quasiment broyés par les chars, les roues et les sabots. Et ça le remet avec un peu un vernis un peu punk, voilà, électrique. Bon, donc ces animaux peuvent paraître monstrueux comme ça parce qu'ils ont ce pouvoir d'électrocuter les cavaliers, mais bien sûr on se rend compte qu'ils sont avant tout aussi les victimes de l'homme et de la du gain, du profit qu'on peut faire avec eux. Et ce que je raconte aussi à travers le roman et la relation que va nouer l'héroïne avec un cheval de foudre, avec cet étalon complètement imprévisible, sauvage, indomptable, c'est qu'on peut nouer une relation avec eux, qu'on peut au lieu de les casser pour pouvoir les dresser et les dompter, qu'on peut par, par la douceur, par les, finir les apprivoiser, par les, par les, par les apprivoiser et avoir les chevaucher comme, comme une centauresse.
Tu penses qu'on peut apprivoiser l'étrangeté ?
Ben, en fait, la, cette, cette petite fille, elle, elle va nouer quelque chose avec l'animal et c'est avant. Oui, et puis c'est intéressant de, d'apprivoiser, d'essayer d'apprivoiser. Mais en fait, non, elle ne va jamais l'apprivoiser tout à fait. Il va aussi rester, bien sûr, comme il est, et, électrique, et de pouvoir d'un coup lancer une décharge, mais ce sera autrement. Il marche avec elle, ils vont ensemble, à pied, côte à côte.
Ça, ça m'a fait penser à un héros que j'ai lu quand j'étais petite et qui, que j'avais vraiment adoré. C'était l'enfant tombé des étoiles. C'est, je retourne sur mes vieux chevaux à moi, c'est Robert Heinlein. Et, et dans l'enfant tombé des étoiles, il y a un cosmonaute qui se rend sur une planète inconnue et qui adopte une espèce de bestiole trop, mignon, trop mignonne qui ressemble vaguement à un dinosaure qui aurait été un collet. Et vraiment très sympa, très affectueuse, il la ramène avec lui. Et la différence qu'elle a, cette bestiole trop mignonne qui ressemble à un dinosaure qui serait un collet, c'est que quand même elle a une vie très longue. Donc en fait, le cosmonaute le lègue à ses enfants, le bestiau qui ne cesse de grossir au fur et à mesure de sa croissance, croissance qui finit au moment où le roman commence par ressembler à un bon abri de jardin. Alors, on est passé fou. Et elle parle un peu, la bestiole, et elle est un peu cruche. On dirait une petite fille bestiasse de 4-5 ans qui fait des grosses bêtises en faisant « Oups, je n'ai pas fait exprès de manger le mur du voisin. » Et le jeune héros, qui est un John Thomas, puisqu'on les appelle tous John Thomas, est désespéré par, sa, par son animal qu'il aime pourtant beaucoup. Et à ce moment-là, au début du roman, arrive un peuple super puissant de l'autre côté de la galaxie qui exige qu'on lui rende la princesse qu'on a enlevée galactique, qu'on a enlevée 100 ans auparavant, parce qu'elle doit contracter un mariage. Voilà. Je vous laisse là. Démerdez-vous avec ça. Ça a été un de mes grand plaisir d'adolescence, ce, ce roman. Et même quand je le relis là maintenant, je le trouve tout, toujours aussi génial. Voilà.
Oui, un très grand roman.
Georges. Ça n'est pas fini, tu n'as pas le droit.
Alain Grousset, vous pourriez peut-être nous reparler un peu, vous les avez évoqués tout à l'heure, les chenilles géantes de la planète Amazonia.
Bon, au départ, il y a ce postulat, mais comme on écrit pour les jeunes, il faut que les jeunes appréhendent facilement les créatures aussi. Bon, premièrement, il ne faut pas qu'elles soient trop méchantes, donc elles ne le sont pas. Elles sont un peu bêtasses parce qu'on n'arrête pas un TGV comme on arrête une mobilette, donc il y a un temps de latence. Mais bon, le héros a aussi des pouvoirs de, est insensitif, et donc le contact va s'établir un peu comme tu parlais avec tes chevaux. Et ça, ça va permettre de retrouver, parce que la quête qu'il a, c'est de, il est sûr que ses parents ont disparu sur cette planète, alors qu'on leur dit, mais non, c'est pas possible, puisque personne ne peut marcher, plus personne. Mais il va arriver effectivement à découvrir, grâce aux chenilles, un endroit où elles font leur cocon pour devenir papillons. Donc c'est là que ça va se passer.
Avec des papillons magnifiques. Hein.
Oui, oui, oui. Donc des grands papillons, oui. Ça, je ne l'avais pas appréhendé au départ. Bon, ça va aider à la solution, effectivement, après.
Je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu sur vos trolls, parce que, bon, il y a le troll contre-maître, qui est une créature particulièrement sympathique. Mais il y a un passage que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est les trolls qui partent, qui prennent leurs vacances et qui partent au camping.
Oui, ben, il faut savoir que le troll moyen prend très très rarement des vacances, ou alors quand il le fait, c'est vraiment tous les siècles. Mais la plupart du temps, quand ils partent ensemble, en particulier les trolls des ponts, détestent quitter leur pont parce que sinon, quand ils commencent à s'en aller, il y a des gens qui traversent sans payer. Et ça, c'est véritablement le début de la fin, quoi. Donc, quand ils partent en vacances, ils emportent leur pont. Donc, ils ont des espèces de trucs caravanes et ils vont s'installer sur des campings en général au bord de l'eau. Donc, ils posent leur pont les uns à côté des autres pour se retrouver. Et évidemment, il y a des trolls qui prennent le risque de partir sans leur pont et qui vont dans des camps de nudistes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que quand les trolls partent en vacances, en fait, il y a des embouteillages. C'est normal à cause des ponts. Et quand il y a les vendredis classés rouges, et malheureusement, le héros qui est obligé de... J'y peux rien. Il est... J'assume. Bon, c'est vrai, j'assume. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de dire, OK, partons du principe sérieusement que nous sommes dans une société comme la nôtre avec des trolls. Qu'est-ce que va faire le troll pendant ces 5 semaines de vacances obligatoires? On se pose ces questions et on s'aperçoit que ça crée des vrais problèmes. Et le moment où, effectivement, on envoie le troll accomplir sa quête, parce que le malheureux, quand l'histoire commence, quand ce roman commence, il vient d'accomplir sa quête et donc il a détruit les hordes du magicien maléfique, il a dispersé leurs armées, il a détruit le chef des armées du magicien maléfique. Et donc quand il est convoqué par le patron, il est persuadé qu'il va se faire féliciter. Et en fait, pas du tout, le patron l'engueule en disant « D'accord, tu as peut-être éliminé le machin, etc., mais tu n'as pas ramené tes notes de frais. » Par conséquent, on ne peut pas terminer le dossier, j'ai la compte de la comptabilité qui me tombe dessus et c'est l'époque des bilans. Donc tu y retournes. Et tu me ramènes les justificatifs comptables qui me permettront de finir ton dossier. Et lui, il dit, mais attends, c'est un week-end classé rouge. Et du coup, comme il devient insolent, en fait, on lui colle la pire créature. Et là, par contre, il y a une créature qui apparaît, qui est une créature totalement... enfin, moi, elle me fait frémir quand j'y pense. On lui colle un stagiaire. Et ça, c'est véritablement...
Un stagiaire humain.
Et un stagiaire humain. Et ça, c'est véritablement la forme la plus perverse de... Et à un moment donné, d'ailleurs, le stagiaire se retrouve à avoir des accointances avec... parce qu'il y a plus ou moins quelqu'un qui a marié une princesse. Donc, il est encore copain avec des tas de familles de têtards qui sont dans les marais maléfiques et tout ça. Et c'est vrai que c'est un personnage dont la richesse et la profondeur ne cessent de m'étonner. Mais j'aimerais pas vivre avec, quoi. C'est ce que je me dis.
En fait, avec cela, on arrive un petit peu... Vous avez anticipé plus ou moins ce qu'il y a être ma dernière question... C'est qu'on vient de parler d'un certain nombre de créatures toutes plus improbables et différentes les unes que les autres. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les humains qui sont les créatures les plus improbables de toutes? Et je crois que vous avez déjà commencé à répondre à la question, Jean-Claude, avec son stagiaire.
T'as déjà essayé de sortir avec une fille?
C'est lui qui l'a dit, hein.
Oui, la réponse. Enfin, disons qu'on a suffisamment d'étrangeté autour de soi. Hein, je veux dire, j'ai personnellement eu 2 filles adolescentes, donc j'ai pu savoir ce que ça peut représenter une créature venue d'une autre planète. Donc, je n'ai absolument aucun problème. Je n'ai aucun besoin d'inventer des choses très très compliquées et totalement drues. J'ai eu ça à la maison, si je puis dire. Mais c'est quand même aussi cette forme d'étrangeté qui donne envie, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même une étrangeté vers laquelle on se dirige, parce qu'elle est profondément attirante, et il y a heureusement une phase de l'étrangeté qui est profondément attirante, et c'est celle à partir duquel on écrit, je pense.
Alors, chez moi, il y a, en ce moment, 4 ou 5 créatures totalement étranges, dont le régime alimentaire est totalement différent d'un être humain normal, ça s'appelle des adolescents, qui sont des mâles, hein, ceux-là. J'ai remarqué qu'ils mangeaient 3 fois plus que la normale à des heures improbables, en général pas fixes. En grand tas de... entre, comme ils sont rôlistes, en plus, c'est plutôt du granola et de la pizza décongelée. Personnellement, lorsque je vois débarquer ces jeunes chez moi, dont 2 sont... Je suis massivement responsable de 2 d'entre eux, j'ai quand même l'impression de voir débarquer des extraterrestres. Hein, et pas forcément humains.
Aurélie.
Non, moi j'ai pas d'adolescent à la maison, donc ça va, j'ai un grand chien qui est très sympathique. Bon, au niveau effectivement de ce que l'homme est la créature la plus improbable, elle est certainement de toutes les créatures qu'on a évoquées la plus monstrueuse, comme on a pu le voir avec ce que disait Alain Grousset, les bêtes qu'on a menées au combat, voilà, les bêtes qu'on mène au jeu pour le profit dans les arènes. toutes les bêtes qui ont été massacrées en les Boismandes.
Le jeune seigneur qui en fait la cause de tous les malheurs d'Ivar et de ses amis dans le Roi des Fauves.
Dans le Roi des Fauves, la condamnation est prononcée par un homme, est bel et bien prononcée par un humain, et c'est lui qui les condamne à ce destin, et le véritable monstre, le véritable adversaire finalement, c'est bien un homme.
Ça me fait penser au tout début de la mythologie grecque. Vous avez deux frères, deux titans, Épiméthée et Prométhée. Et Prométhée est chargé par les dieux de distribuer à l'ensemble des créatures vivantes tout ce dont ils auront besoin pour survivre. Alors ils s'installent sur une colline avec un grand sac dans lequel il y a les plumes, les griffes, les crocs, les ailes, le chant, la danse, la course, enfin tous les talents qu'ont tous les animaux. Ils s'installent et ils commencent à distribuer lentement à toutes les créatures qui arrivent devant lui, et il y va avec beaucoup de mesures, parce que Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir, c'est son nom. Et puis c'est long, parce qu'il y a énormément de créatures et il commence à fatiguer, et là son frère Épiméthée, celui qui réfléchit après, est tout enthousiaste parce qu'il adore donner des trucs, et il supplie son frère de bien vouloir lui laisser la place et pour qu'il en profite pour aller se reposer, faire la sieste, tout ça. Mais lui, il prendra en charge, il a tout vu comment on faisait, il a tout compris, c'est bien, il va pouvoir gérer. Et Prométhée part à la sieste, donc, et lorsqu'il revient, il y a Épiméthée qui a sa tête, oups, I did it again, il est tout seul avec le sac vide, et devant lui, il y a une petite créature qui pleure désespérément, parce qu'Épiméthée n'a rien pu lui donner, parce que dans son enthousiasme, il a distribué à grande... Il a donné des plumes et des crocs à qui lui en demandait. Enfin, bref, la petite créature s'est retrouvée, il n'y avait plus rien dans le sac. Et cette créature nue, sans dents, sans talent pour la course, sans talent pour rien, c'est nous.
Alain Grousset.
Fini, ça, non ? Ah oui. Oui, non, je crois que l'homme est le monstre du cosmos, et je pense que on n'a pas trop intérêt à trouver un moyen d'aller sur les autres planètes, parce que les habitants ont beaucoup de soucis à se faire. Je pense que nous sommes vraiment les prédateurs, et je ne pense pas qu'on soit du côté des Iti. Je pense que dès qu'on trouvera une autre planète qui nous satisfera, malheur aux habitants originels.
Eh bien, sur cette note enthousiaste,
voilà, sur les monstres. La preuve de l'intelligence des extraterrestres, c'est qu'ils n'ont pas essayé de nous contacter.
Donc, sur cette note totalement enthousiaste qui vous mettra de bonne humeur un dimanche matin à 11h, nous allons terminer, parce que sinon on va me faire des gros yeux. Je vois déjà les gens qui arrivent pour la table ronde suivante. Donc, merci de votre attention et merci à nos participants. Merci.